Livre 2. La faute de l'abbé Mouret, chapitre 5. Chaque jour, elle le fit ainsi asseoir devant la fenêtre aux heures fraîches. Il commençait à hasarder quelques pas en s'appuyant au meuble. Ses joues avaient des lueurs roses, ses mains perdaient leur transparence de cire, mais dans cette convalescence, il fut pris d'une stupeur d'essence qui le ramena à la vie végétative d'un pauvre être né de la vieille. Il n'était qu'une plante, ayant la seule impression de l'air où il baignait. Il restait replié sur lui-même, encore trop pauvre de sang pour se dépenser au dehors, tenant au sol, laissant boire toute la sève à son corps. C'était une seconde conception, une lente éclosion dans l'œuf chaud du printemps. Albine, qui se souvenait de certaines paroles du docteur Pascal, éprouvait un grand effroi à le voir demeurer ainsi, petit garçon, innocent, hébété. Elle avait entendu conter que certaines maladies laissaient derrière elle la folie pour guérison, et elle s'oubliait des heures à le regarder, s'ingéniant comme les mères à lui sourire pour le faire sourire. Il ne riait pas encore. Quand elle lui passait la main devant les yeux, il ne voyait pas, il ne suivait pas cette ombre. À peine lorsqu'elle lui parlait, tournait-il légèrement la tête du côté du bruit. Elle n'avait qu'une consolation. Il poussait superbement, il était un bel enfant. Alors, pendant une semaine, ce furent des soins délicats. Elle patientait, attendant qu'il grandît. À mesure qu'elle constatait certains éveils, elle se rassurait. Elle pensait que l'âge en ferait un homme. C'était de légers tressaillements lorsqu'elle le touchait. Puis un soir, il eut un faible rire. Le lendemain, après l'avoir assis devant la fenêtre, elle descendit dans le jardin où elle se mit à courir et à l'appeler. Elle disparaissait sous les arbres, traversait des nappes de soleil, revenait, essoufflée, tapant des mains. Lui, les yeux vacillants, ne la vit point d'abord. Mais comme elle reprenait sa course, jouant de nouveau à cache-cache, surgissant derrière chaque buisson en lui jetant un cri, il finit par suivre du regard la tache blanche de sa jupe. Et quand elle se planta brusquement sous la fenêtre, la face levée, il tendit les bras. Il fit mine de vouloir aller à elle. Elle remonta, l'embrassa toute fière. « Ah, tu m'as vu !» cria-t-elle. « Tu veux bien venir dans le jardin avec moi, n'est-ce pas ? Si tu savais comme tu me désoles depuis quelques jours à faire la bête, à ne pas me voir, à ne pas m'entendre !» Il semblait l'écouter avec une légère souffrance qui lui pliait le cou d'un mouvement peureux. « Tu vas mieux pourtant, » continuait-elle. « Te voilà assez fort pour descendre quand tu voudras. Pourquoi ne me dis-tu plus rien ? Tu as donc perdu ta langue ? Oh, quel marmot ! Vous verrez qu'il me faudra lui apprendre à parler. » Et en effet, elle s'amusa à lui nommer les objets qu'il touchait. Il n'avait qu'un balbutiement. Il redoublait les syllabes, ne prononçant aucun mot avec netteté. Cependant, elle commençait à le promener dans la chambre. Elle le soutenait, le menait du lit à la fenêtre. C'était un grand voyage. Il manquait de tomber deux ou trois fois en route, ce qui la faisait rire. Un jour, il s'assit par terre et elle eut toutes les peines du monde à le relever. Puis elle lui fit entreprendre le tour de la pièce, en l'asseyant sur le canapé, les fauteuils, les chaises, tour de ce petit monde qui demandait une bonne heure. Enfin, il put risquer quelques pas tout seul. Elle se mettait devant lui, les mains ouvertes, reculait en l'appelant de façon à ce qu'il traversât la chambre pour retrouver l'appui de ses bras. Quand il boudait, qu'il refusait de marcher, elle ôtait son peigne qu'elle lui tendait comme un joujou. Alors il venait le prendre et il restait tranquille dans un coin à jouer pendant des heures avec le peigne, à l'aide duquel il grattait doucement ses mains. Un matin, Albine trouva Serge debout. Il avait déjà réussi à ouvrir un volet. Il s'essayait à marcher sans s'appuyer au meuble. Voyez-vous le gaillard, dit-elle gaiement. Demain, il sautera par la fenêtre si on le laisse faire. Nous sommes donc tout à fait solides maintenant ? Serge répondit par un rire de puérilité. Ses membres avaient repris la santé de l'adolescence sans que des sensations plus conscientes se fussent éveillées en lui. Il restait des après-midi entiers en face du paradou avec sa moue d'enfant qui ne voit que du blanc, qui n'entend que le frisson des bruits. Il gardait ses ignorances de gamin, son toucher, ses innocences encore qui ne lui permettaient pas de distinguer la robe d'Albine de l'étoffe des vieux fauteuils. Et c'était toujours un émerveillement d'yeux grands ouverts qui ne comprennent pas, une hésitation de gestes, ne sachant point aller où ils veulent, un commencement d'existence purement instinctif, en dehors de la connaissance du milieu. L'homme n'était pas né. Bien, bien, fais la bête, murmura Albine. Nous allons voir. Elle ôta son peigne, elle le lui présenta. Veux-tu mon peigne, dit-elle, viens le chercher. Puis, quand elle l'eut fait sortir de la chambre en reculant, elle lui passa un bras à la taille, elle le soutint à chaque marche. Elle l'amusait tout en remettant son peigne, lui chatouillait le cou du bout de ses cheveux, ce qui l'empêchait de comprendre qu'il descendait. Mais en bas, avant qu'elle eût ouvert la porte, il eut peur, dans les ténèbres du corridor. « Regarde donc » cria-t-elle. Et elle poussa la porte toute grande. Ce fut une aurore soudaine, un rideau d'ombre tiré brusquement, laissant voir le jour dans sa gaieté matinale. Le parc s'ouvrait, s'étendait d'une limpidité verte, frais et profond comme une source. Serge, charmé, restait sur le seuil, avec le désir hésitant de tâter du pied ce lac de lumière. « On dirait que tu as peur de te mouiller, » dit Albine. « Va, la terre est solide. » Il avait hasardé un peu, surpris de la résistance douce du sable. Ce premier contact de la terre lui donnait une secousse, un redressement de vie qui le planta un instant debout, grandissant, soupirant. « Allons, du courage !» répéta Albine. « Tu sais que tu m'as promis de faire 5 pas. Nous allons jusqu'à ce mûrier qui est sous la fenêtre. Là, tu te reposeras. » Il mit un quart d'heure pour faire les 5 pas. À chaque effort, il s'arrêtait comme s'il lui avait fallu arracher les racines qui le tenaient au sol. La jeune fille qui le poussait lui dit encore en riant « Tu as l'air d'un arbre qui marche !» et elle l'adossa contre le mûrier dans la pluie de soleil tombant des branches. Puis, elle le laissa. Elle s'en alla d'un bond en lui criant de ne pas bouger. Serge, les mains pendantes, tournait lentement la tête en face du parc. C'était une enfance. Les verdures pâles se noyaient d'un lait de jeunesse, baignées dans une clarté blonde. Les arbres restaient puérils. Les fleurs avaient des chairs de bambins. Les eaux étaient bleues, d'un bleu naïf, de beaux yeux grands ouverts. Il y avait jusque sous chaque feuille un réveil adorable. Serge s'était arrêté à une trouée jaune qu'une large allée faisait devant lui au milieu d'une masse épaisse de feuillage. Tout au bout, au levant, des prairies trempées d'or semblaient le champ de lumière où descendait le soleil. Et il attendait que le matin prît cette allée pour couler jusqu'à lui. Il le sentait venir dans un souffle tiède, très faible d'abord, à peine effleurant sa peau, puis s'enflant peu à peu, si vif qu'il en tressaillait tout entier. Il le goûtait venir d'une saveur de plus en plus nette, lui apportant l'amertume saine du grand air, mettant à ses lèvres le régal des aromates sucrés, des fruits acides, des bois laiteux. Il le respirait venir avec les parfums qu'il cueillait dans sa course, l'odeur de la terre, l'odeur des bois ombreux, l'odeur des plantes chaudes, l'odeur des bêtes vivantes, tout un bouquet d'odeurs dont la violence allait jusqu'au vertige. Il l'entendait venir du vol léger d'un oiseau, rasant l'herbe, tirant du silence le jardin entier, donnant des voix à ceux qu'il touchait, lui faisait sonner aux oreilles la musique des choses et des êtres. Il le voyait venir du fond de l'allée, des prairies trempées d'or, l'air rose, si gai qu'il éclairait son chemin d'un sourire, au loin gros comme une tache de jour, devenu en quelques bonds la splendeur même du soleil. Et le matin vint battre le mûrier contre lequel Serge s'adossait. Serge naquit dans l'enfance du matin. « Serge ! Serge !» cria la voix d'Albine perdue derrière les hauts buissons du parterre. « N'aie pas peur, je suis là !» Mais Serge n'avait plus peur. Il naissait dans le soleil, dans ce bain pur de lumière qui l'inondait. Il naissait à 25 ans, les sens brusquement ouverts, ravi du grand ciel, de la terre heureuse, du prodige de l'horizon étalé autour de lui. Ce jardin qu'il ignorait la veille était une jouissance extraordinaire. Tout l'emplissait d'extase jusqu'aux brins d'herbe, jusqu'aux pierres des allées, jusqu'aux haleines qu'il ne voyait pas et qui lui passaient sur les joues. Son corps entier entrait dans la possession de ce bout de nature, l'embrassait de ses membres. Ses lèvres le buvaient, ses narines le respiraient. Il l'emportait dans ses oreilles, il le cachait au fond de ses yeux. C'était à lui. Les roses du parterre, les branches hautes de la futaie, les rochers sonores de la chute des sources, les prés où le soleil plantait ses épis de lumière étaient à lui. Puis, il ferma les yeux. Il se donna la volupté de les rouvrir lentement pour avoir l'éblouissement d'un second réveil. « Les oiseaux ont mangé toutes les fraises, » dit Albine, qui accourait désolée. « Tiens, je n'ai pu trouver que ces deux-là. » Mais elle s'arrêta à quelques pas, regardant Serge avec un étonnement ravi, frappé au cœur. « Comme tu es beau !» cria-t-elle. Et elle s'approcha davantage. Elle resta là, noyée en lui, murmurant « Jamais je ne t'avais vu. » Il avait certainement grandi. Vêtu d'un vêtement lâche, il était planté droit, un peu mince encore, les membres fins, la poitrine carrée, les épaules rondes. Son cou blanc, taché de brun à la nuque, tournait librement, renversant légèrement la tête en arrière. La santé, la force, la puissance étaient sur sa face. Il ne souriait pas. Il était au repos, avec une bouche grave et douce, des joues fermes, un nez grand, des yeux gris très clairs, souverains. Ses longs cheveux qui lui cachaient tout le crâne retombaient sur les épaules en boucles noires, tandis que sa barbe légère frisait à sa lèvre et à son menton, laissant voir le blanc de la peau. « tu es beau !» répétait Albine lentement, accroupie devant lui, levant des regards caressants. « Mais pourquoi me boudes-tu maintenant? Pourquoi ne me dis-tu rien ?» Lui, sans répondre, demeurait debout. Il avait les yeux au loin. Il ne voyait pas cet enfant à ses pieds. Il parla seul. Il dit dans le soleil « que la lumière est bonne !» Et l'on nous dit que cette parole était une vibration même du soleil. Elle tomba, à peine murmurée comme un souffle musical, un frisson de la chaleur et de la vie. Il y avait quelques jours déjà qu'Albine n'avait plus entendu la voix de Serge. Elle l'a retrouvée ainsi que lui, changée. Il lui sembla qu'elle s'élargissait dans le parc avec plus de douceur que la phrase des oiseaux, plus d'autorité que le vent courbant les branches. Elle était reine, elle commandait. Tout le jardin l'entendit, bien qu'elle eût passé comme une haleine, et tout le jardin tressaillit de l'allégresse qu'elle lui apportait. « Parle-moi, » implora Albine, « tu ne m'as jamais parlé ainsi. En haut, dans la chambre, quand tu n'étais pas encore muet, tu causais avec un babillage d'enfant. D'où vient donc que je ne connais plus ta voix ? Tout à l'heure, j'ai cru que ta voix descendait des arbres, qu'elle m'arrivait du jardin entier, qu'elle était un de ces soupirs profonds qui me troublaient la nuit avant ta venue. Écoute, tout se tait pour t'entendre parler encore. » Mais il continuait à ne pas la savoir là, et elle se faisait plus tendre. « Non, ne parle pas si ça te fatigue. assieds-toi à mon côté. Nous resterons sur ce gazon jusqu'à ce que le soleil tourne. Et regarde, j'ai trouvé 2 fraises. J'ai eu bien de la peine, va. Les oiseaux mangent tout. Il y en a une pour toi, les 2 si tu veux. Ou bien nous les partagerons pour goûter à chacune. Tu me diras merci et je t'entendrai. Il ne voulut pas s'asseoir. Il refusa les fraises qu'Albine jeta avec dépit. Elle-même n'ouvrit plus les lèvres. Elle l'aurait préféré malade comme au premier jour, lorsqu'elle lui donnait sa main pour l'oreiller et qu'elle le sentait renaître sous le souffle dont elle lui rafraîchissait le visage. Elle maudissait la santé qui maintenant le dressait dans la lumière, pareil à un jeune dieu indifférent. Allait-il donc rester ainsi, sans regard pour elle? Ne guérirait-il pas davantage jusqu'à la voir et à l'aimer? Et elle rêvait de redevenir sa guérison, d'achever par la seule puissance de ses petites mains cette cure de seconde jeunesse. Elle voyait bien qu'une flamme manquait au fond de ses yeux gris, qu'il avait une beauté pâle, semblable à celle des statues tombées dans les orties du parterre. Alors elle se leva, elle vint le reprendre à la taille, lui soufflant sur la nuque pour l'animer. Mais ce matin-là, Serge n'eut pas même la sensation de cette haleine qui soulevait sa barbe soyeuse. Le soleil avait tourné, il fallut rentrer. Dans la chambre, Albine pleura. À partir de cette matinée, tous les jours le convalescent fit une courte promenade dans le jardin. Il dépassa le mûrier, il alla jusqu'au bord de la terrasse, devant le large escalier dont les marches rompues descendaient au parterre. Il s'habituait au grand air, chaque bain de soleil l'épanouissait. Un jeune marronnier, poussé d'une graine tombée entre 2 pierres de la balustrade, crevait la résine de ses bourgeons, déployait ses éventails de feuilles avec moins de vigueur que lui. Même un jour, il avait voulu descendre l'escalier, mais trahi par ses forces, il s'était assis sur une marche, parmi des pariétaires grandis dans les fentes des dalles. En bas, à gauche, il apercevait un petit bois de roses. C'était là qu'il rêvait d'aller. « Attends encore, » disait Albine. « Le parfum des roses est trop fort pour toi. Je n'ai jamais pu m'asseoir sous les rosiers sans me sentir toute lasse, la tête perdue, avec une envie très douce de pleurer. Va, je te mènerai sous les rosiers et je pleurerai car tu me rends bien triste. »